ce n'est que très occasionnellement, c'est vrai, que nous chrétiens, dans l'Ancien Testament, nous lisons le livre des Nombres. Mais il en est allé sûrement de même tout au long de l'histoire de l'Église. Or, le récit le plus connu de ce livre est justement celui sur lequel nous allons nous arrêter aujourd'hui. D'ailleurs, Jésus lui-même y a fait référence. C'est en Jean chapitre 3, dans son dialogue avec Nicodème, mais j'y reviendrai. Alors écoutons maintenant la lecture du livre des Nombres au chapitre 21, les versets 4 à 9. Il nous est dit que les Israélites prirent la direction de la mer des Roseaux afin de contourner leurs ennemis, le pays d'Édom. Le peuple perdit patience. Les gens se mirent à critiquer Dieu et Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte, disait-il, pour nous faire mourir dans le désert? Il n'y a ici ni pain, ni eau, et nous sommes dégoûtés de la manne. Alors, le Seigneur envoya contre eux des serpents venimeux. Ils mordirent un grand nombre d'Israélites qui en moururent. Le reste du peuple se rendit auprès de Moïse pour lui dire « Nous avons péché en vous critiquant, le Seigneur et toi. Supplie donc le Seigneur d'éloigner ces serpents de nous. » Moïse alors se mit à prier le Seigneur en faveur du peuple. Le Seigneur lui répondit « Façonne un serpent de métal et fixe-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. » Moïse façonna donc un serpent de bronze ou d'airain et le fixa sur une perche. Dès lors, toute personne qui avait été mordue par un serpent et qui regardait le serpent de bronze avait la vie sauve. Fin de citation. Mes amis, avant de reprendre avec vous ce récit, j'aimerais relever qu'il existe plusieurs façons d'aborder, de lire et d'interpréter l'Écriture. Quatre d'entre elles, notamment, ont été couramment pratiquées par les chrétiens à travers les âges. Et, je le précise d'emblée, aucune d'entre elles n'est ni fausse, ni ne pourrait non plus prétendre à être la seule bonne et correcte. Chacune est légitime et ensemble complémentaire. Ainsi, la première façon de lire notre récit consiste bien entendu à l'aborder de façon littérale. Le livre des Nombres nous rapporte qu'après que les Hébreux aient franchi la mer Rouge et reçu la loi sur le mont Sinaï, nous rapporte que le peuple se trouve dans le désert, aux portes de la terre promise, ou presque. Et c'est là que nous le retrouvons, au chapitre 14 d'abord, en train de se plaindre, de rouspéter et de refuser d'avancer. Écoutez plutôt. Toute la nuit, les Israélites crièrent et pleuraient. Ils protestaient contre Moïse et contre Aaron et leur disaient « Ah, si seulement nous étions morts en Égypte ou même dans ce désert, mais pourquoi le Seigneur nous conduit-il dans un tel pays ?» Nous y mourons dans des combats et nos femmes et nos enfants sont déportés par les vainqueurs. Ne vaudrait-il pas mieux pour nous que nous retournions en Égypte? Fin de citation. Voilà, si près du but. Sans doute, les Israélites pressentaient que les difficultés et les épreuves qu'ils avaient rencontrées jusque-là allaient continuer et qu'ils n'auraient plus la force et surtout le courage de les affronter encore. L'on constate alors que le livre des Nombres devient ainsi l'histoire de l'errance du peuple dans le désert. Maintenant, mes amis, c'est peut-être aussi notre histoire à nous. Nous sommes au départ pleins d'espoir, mais aujourd'hui fatigués de nos mauvaises habitudes, de nos déceptions, et nous sommes tentés de renoncer. Alors, frères et sœurs, de la part du Seigneur, je vous le dis, n'abandonnons pas la lutte, car le Seigneur nous dit à chacun tout à nouveau, celui ou celle qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là ou celle-là sera sauvé. Cela dit, notre récit d'aujourd'hui au nombre 21 nous raconte que pour punir les Hébreux de leur faute, Dieu leur a donc envoyé des serpents à la morsure brûlante, dit littéralement le texte. Et puis nous apprenons qu'après que le peuple soit revenu auprès de Moïse pour avouer leur faute, ce dernier a façonné, sur l'ordre de Dieu, un serpent de bronze et l'a fixé sur un étendard pour permettre à ceux qui se tournaient vers lui d'être guéris. Or, on retrouve plus loin, dans le deuxième livre des Rois, une allusion précisément au fait que Moïse, dans cet épisode singulier, a en fait transformé une vieille tradition des nomades du désert concernant leur dieu guérisseur, Nehushtan. Mais ici, il n'y a donc aucune superstition, mais au contraire, la claire affirmation que le salut et la guérison ne sauraient être octroyés par un serpent, mais uniquement par le Seigneur de l'Alliance, si l'on revient à lui et se tourne vers lui. Telle est donc la lecture et la leçon littérale de notre texte. Maintenant, il y a plus que le sens littéral. Et ce récit a bien entendu encore beaucoup à nous dire. Ainsi, à l'exemple d'un des plus grands exégètes chrétiens, Origène d'Alexandrie, au IIIe siècle, l'a montré en reprenant à son compte la tradition judaïque d'interprétation des textes de l'Ancien Testament. Et il nous a montré qu'on pouvait distinguer deux sens à l'écriture. Le sens littéral, donc, et le sens spirituel. Ce dernier étant pour lui subdivisé en un sens allégorique, moral et christologique, assurant toute la richesse de la lecture vivante de l'écriture dans l'Église. Je vous fais ici remarquer en passant que cette façon d'interpréter est restée pertinente et valable jusqu'à aujourd'hui. Voilà, dit en d'autres mots, le sens littéral est le sens simplement signifié par les mots et les paroles de l'Écriture, éclairées à la fois par le Saint-Esprit et par le travail de l'exégèse qui cherche à en préciser le contexte et l'explication, ce que nous avons fait. Maintenant, le sens spirituel d'un texte se trouve aussi dans sa dimension dite tout allégorique. Par exemple, nous pouvons acquérir une compréhension plus profonde de certains événements en leur reconnaissant une signification supplémentaire quand nous la rapportons, par exemple, à la vie et à l'enseignement de Jésus. Ainsi, parmi d'autres possibles, la traversée de la mer Rouge est un signe de la victoire du Christ et trouve aussi son écho dans le baptême chrétien. C'est ce que dira Paul en 1 Corinthiens chapitre 10 verset 2. Ce sens spirituel comporte également une dimension morale qui peut nous encourager et qui peut nous conduire à un agir juste que Paul montre également à la suite d'1 Corinthiens 10 lorsqu'il exprime ceci, « Ces choses, dit-il, ont été écrites pour notre instruction. » Et puis, outre cela, les chrétiens ont bien entendu su reconnaître un sens typologique ou christologique à certains épisodes et personnages de l'Ancien Testament. Inutile d'ajouter à ce sujet. Mais plus encore, nous pouvons y voir des réalités et des événements dans leur signification éternelle qui nous conduisent vers notre vraie patrie, notre terre promise à nous, la maison du Père, comme le dira Jésus en Jean chapitre 14. Et par exemple, dans l'Apocalypse, il nous est montré que l'Église sur terre est signe de la Jérusalem céleste. Et bien maintenant, j'aimerais mentionner le grand philosophe grec Philon d'Alexandrie, qui a été un contemporain précisément de Jésus et de Nicodème. Eh bien, lui, dans son interprétation tout allégorique, a écrit à propos de ces serpents brûlants de Nombre 21 qu'ils agissaient comme la morsure des passions et du plaisir qui souvent viennent mordre et tuer notre esprit et notre intelligence. Et puis dans cette même veine, mais 20 siècles plus tard, le philosophe juif contemporain Emmanuel Levinas a écrit partant de ce même texte que le serpent d'airain posé sur une hampe et dressé vers le haut oriente les Israélites vers le Très-Haut, car Dieu ne demeure pas indifférent. Il est concerné par la souffrance des hommes, souffrance qui provient de leur faute et de ses conséquences inéluctables. Ainsi, ajoute Levinas dans cet épisode, les Israélites qui souffrent se tournent vers Dieu, et Dieu considère leur souffrance et les rejoint en y compatissant. Et puis, dit-il, le signe du serpent d'airain est alors devenu le lieu de la rencontre entre la souffrance du peuple et la souffrance de Dieu compatissant. Il a ainsi permis aux Israélites de prendre conscience de leurs péchés, de la souffrance qu'ils provoquent et de la compassion de Dieu qui les sauve de leur histoire de péché. Fin de citation. C'est un très beau commentaire allégorique et si juste, n'est-ce pas? Maintenant, revenons en arrière dans le temps, permettez-moi de vous citer l'interprétation d'un chrétien du 8e siècle nommé Bède le Vénérable, tant son rayonnement spirituel était grand. En effet, toute sa vie a été vouée à l'étude de la Bible, à l'enseignement, à la rédaction de nombreux ouvrages et avant tout à la prière. Eh bien, Bède le Vénérable nous a laissé une très belle interprétation spirituelle de notre récit des Nombres. La voici. Les blessures provoquées par les serpents brûlants, a-t-il écrit, sont les poisons et les brûlures des vices qui, en frappant l'âme, causent sa mort spirituelle. Il convenait que ceux qui murmuraient contre le Seigneur soient abattus par les morsures des serpents, pour que ce châtiment leur fasse connaître, reconnaître tous les dégâts spirituels causés par leurs murmures. Et poursuivant son commentaire, Bède ajoute, quant au serpent de bronze élevé pour guérir les morsures de ceux qui le regardaient, il représente bien sûr notre Rédempteur dans sa passion sur la croix, car seule la foi en lui remporte la victoire sur le règne du péché et de la mort. Et les péchés qui mènent l'âme et le corps à leur perte sont représentés à juste titre par des serpents qui sont en effet habiles à donner la mort par leurs morsures brûlantes et venimeuses. Conclusion, je cite encore Bède, guéri par le Seigneur, nous devons maintenant faire en sorte que les bonnes pensées conçues par le Saint-Esprit en notre esprit se traduisent en actes méritoires dans notre vie, de sorte que nous pourrons, en confessant la vraie foi et en menant une existence pleine de piété et de sagesse, mériter de parvenir à la plénitude de la vie qui nous est promise. Voilà, je reprends mon propos. On pourrait donc résumer ces 4 sens de l'Écriture comme ceci. Le sens littéral enseigne les événements tels que rapportés dans le texte. Le sens allégorique, ce qu'on peut croire et espérer au-delà des événements proprement dits. Le sens moral, le juste comportement que le Seigneur attend de nous. Et puis, le sens christologique ou théologique, ce vers quoi nous pouvons tendre selon le projet de Dieu et l'exemple de Jésus-Christ. Mais revenons à notre récit de Nombre 21 pour nous demander que pouvons-nous en tirer quant à son sens spirituel, allégorique et christologique. Eh bien ici, nous pouvons facilement nous reconnaître, n'est-ce pas, dans ces Hébreux qui rouspètent et qui vitupèrent. Et c'est au travers d'eux qu'émergent, je l'ai dit, nos propres résistances à nous, dans notre marche, tout au long de notre vie chrétienne. Cela faisait bien sûr des années que le peuple d'Israël marchait dans le désert. Il pensait, sans doute trop vite, être sorti d'Égypte pour une vie de liberté et de joie. Mais voilà qu'il continue d'errer dans le désert, et que tous les jours se ressemblent, et ce milieu est hostile, il fait chaud, et le soleil vous brûle la peau et les yeux, et la nuit il fait froid, et on n'y voit rien. De plus, des animaux dangereux vivent aussi dans le désert, des scorpions, des serpents, qui peuvent vous tuer d'une piqûre ou d'une morsure. Alors les Israélites en ont assez, et ils se plaignent de Moïse et même de Dieu. « Nous étions mieux en Égypte, » disent-ils même. Ici, il n'y a rien à manger. Moïse nous a amenés dans ce désert pour nous faire mourir. Ces récriminations du peuple deviennent finalement refus de Dieu, un refus de lui faire confiance pour aujourd'hui et pour demain. Et voilà pourquoi le Seigneur envoie ces serpents venimeux, car, symboliquement, et sans qu'ils s'en rendent toujours compte, le serpent de la Genèse, qui avait déjà tenté Ève et qui, dès l'origine, s'est opposé à Dieu, voilà que les Hébreux s'en sont rendus complices. Dans l'Antiquité, dans la Bible, il faut sans doute le rappeler ici, le serpent est un symbole ambivalent. Il est bien sûr signe de ce qui est mauvais ou dangereux. Il ne laisse pas de traces et s'infiltre doucement pour mordre. Il est donc un symbole de la sournoiserie et de la mort. Il inspire la méfiance et la peur. Il est l'incarnation du mauvais, le tentateur. Et il a donc bien fallu que les Hébreux entrent en eux-mêmes et qu'ils constatent en désespoir de cause qu'ils se sont encore une fois fait avoir par le serpent, et notamment par le serpent de leur propre désir, qui les mène par le bout du nez. Ce désir qui les fait maintenant brûler de fièvre, et ils en crèvent, littéralement. Alors ils finissent bien par demander à Moïse d'intercéder auprès du Seigneur. Cet état de fait, les Hébreux doivent le regarder en face. Et alors, pour ce faire, sur l'ordre de Dieu, Moïse dresse un serpent sur un bâton. Or, le serpent sur un bâton devient alors pour eux signe de guérison. Oui, le symbole du serpent peut être ambivalent. Le Seigneur pour les siens peut et veut transformer le mal en bien. Et c'est inspiré de cet événement mémorable que nos pharmacies, encore aujourd'hui, gardent sur leur devanture le symbole graphique du serpent sur une hampe. Eh bien, mes amis, à nous en cet instant, c'est un semblable miroir en somme que le Saint-Esprit présente à chacune de nos consciences. Allons-nous rectifier ce qui mérite de l'être dans notre vie, ou allons-nous passer outre ce que le Seigneur nous montre maintenant? Car nul ne peut être sauvé s'il ne regarde le mal qui s'insinue en lui et s'il ne fait le lien entre ce mal et le manque de confiance en Dieu qu'il implique. Est-ce que nous aussi, nous murmurerons « Je n'y arriverai pas, je n'ai pas la force de continuer, c'est trop difficile, je veux arrêter, j'en ai marre, etc. etc. » Le serpent vient donc aussi évoquer notre humaine tentation de vivre dans la facilité, au ras des pâquerettes, au niveau de la poussière du sol, littéralement, et nous nourrissant de cette poussière, et comme Adam et Ève, faisant de leur propre désir leur Dieu, comme les Hébreux qui en ont assez de se fatiguer à avancer, alors qu'il n'était pas si désagréable de stagner dans leur esclavage en Égypte. Le serpent évoque également pour nous cette tentation, en effet, de nous installer dans ce monde-ci, pour ce monde-ci et par ce monde-ci. Et à l'inverse, ces serpents qui nous tuent peuvent aussi être, comme pour les Hébreux dans le désert, le fait de n'avoir plus qu'une seule envie, celle d'abandonner, de lâcher tout, de renoncer. Ces questions posées à chacun de nous. Maintenant, il est temps de revenir à cette fameuse conversation entre Nicodème et Jésus en Jean chapitre 3 que j'ai mentionné tout à l'heure. Jésus qui invite ce théologien juif influent à abandonner ses schémas de pensée et à accueillir le message d'un nouveau type de vie selon l'esprit, est-il dit. Mais ces paroles laissent perplexe Nicodème, et il ne peut que se demander, mais comment cela peut-il bien se faire? Et c'est peut-être avec une pointe d'ironie que Jésus répond qu'il trouve curieux qu'un tel maître d'Israël, spécialiste de l'Ancien Testament et entraîné à la spiritualité des Écritures, soit si déconcerté par les choses de Dieu qui sont censées être de son ressort. Mais Jésus ne le laisse pas dans l'ignorance. Ainsi, Jésus indique à Nicodème que la vie nouvelle est accordée par l'Esprit-Saint. Et puis ensuite, il lui apprend que cette vie nous est aussi donnée grâce à lui, le Christ, le Messie de Dieu. Et pour lui montrer comment cela se passe, Jésus établit donc un parallèle avec l'histoire de Moïse et du serpent d'airain précisément. De même que le serpent de bronze a guéri ceux qui étaient sur leur lit de mort dans le désert à cause de la morsure du désert, évoquant le rejet de Dieu, le péché de la Genèse, de même Jésus donnera la vie à tous ceux qui regardent celui qu'ils ont transpercé sur la croix, comme le dira l'évangéliste Jean au chapitre 19 alors, au verset 37. Le message que Jésus annonce à Nicodème est bien sûr pour chacun de nous, mes amis, invitation à accepter la vie et l'avenir que Dieu nous offre. Et comme les Israélites dans le désert, à être guéris de nos blessures, de nos manquements et de nos misères. Il est donc essentiel de ne pas seulement entendre, mais d'écouter, d'accueillir ce que le Seigneur nous enseigne aujourd'hui, à savoir que la vie, et a fortiori notre propre marche dans la vie chrétienne, n'est possible que si nous regardons et que nous avons le cœur fixé sur Jésus et sur Jésus crucifié. Le serpent sur le bâton et la croix deviennent signes de salut. Le serpent dans le désert a permis aux Israélites de se repentir, de changer de comportement et de retrouver une relation avec Dieu. Il leur a donc apporté l'espérance d'un salut, d'une sortie du désert et d'une véritable libération. Eh bien, de même la croix est le signe et la promesse du salut. Car, dira Jésus à Nicodème, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, que toute personne qui croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La volonté de Dieu, c'est le salut de tous. L'acte du Père d'envoyer son Fils est un acte d'amour gratuite afin de nous sauver. Car si Jésus meurt sur la croix, ce n'est pas pour rétablir l'honneur de son Père qui aurait été blessé, offusqué, mais pour exprimer l'amour inconditionnel et incommensurable de Dieu. Et c'est bien cela que va expliquer Jésus. Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ici, l'exégèse, précisément, nous montre que Jésus joue sur le double sens du verbe juger. Juger qui, en grec comme en français, peut être utilisé pour signifier juger au sens d'examiner ou bien au sens de condamner. Ici, le jugement évoqué n'anticipe pas une condamnation, mais il est la mise en lumière de ce que nous avons fait ou que nous vivons dans la pénombre de nos jours, pourrais-je dire. Certes, je vous le concède, cette mise en lumière peut être douloureuse, comme ce fut le cas pour les Israélites mordus par des serpents dans le désert. Mais Jésus nous le redit, ce n'est pas la condamnation qui est venue dans le monde, mais la lumière. Il n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour nous aider à changer nos vies en acceptant son amour. Le jugement de Dieu n'est pas une condamnation, mais une guérison, une libération. Et pour nous-mêmes, rappelle Jésus, le temps est venu où l'Esprit nous est donné. Alors, nous pouvons nous adresser à Dieu directement. Plus besoin de Moïse, sans passer par un prophète, sans passer par un ministre ou un quelconque intermédiaire. Oui, Dieu nous attend tel que nous sommes et il nous attend pour nous guérir. C'est alors qu'en regardant le serpent de bronze, les Hébreux ont choisi de revenir à Dieu et de lui faire confiance pour les faire entrer et s'établir en terre promise. Dieu avait, souvenez-vous, fait sortir les Israélites d'Égypte. Ça a été leur première libération. Eh bien maintenant, il les fera entrer dans la promesse d'une vie nouvelle. Avec lui, ce sera leur deuxième libération. De même, en regardant la croix, Dieu nous invite à faire le choix de repartir avec lui dans la vie. Et par l'élévation du Christ sur la croix, Dieu nous offre à notre tour aujourd'hui une nouvelle libération, la libération de nos erreurs, de nos manquements, de nos désespoirs, de nos culpabilités, de nos souffrances, de nos obscurités. Il veut les remplir de sa lumière pour nous en libérer, pour nous aider à repartir avec lui. La mort de Jésus-Christ en croix n'est pas l'acte magique d'un guérisseur ou la passe magnétique d'un charlatan qui opère sur nous. Non, il est le signe vrai de l'amour de Dieu qui se donne tout entier en son Fils Jésus-Christ pour élever notre regard vers lui, pour nous inviter à revenir à lui, pour nous inviter à repartir avec lui, avec cette promesse qui lui est attachée. Quiconque croit en lui, c'est-à-dire quiconque l'accueille et lui fait confiance à la vie éternelle, la vie qui vient de Dieu. Alors il est temps de terminer, mes amis. Tournez vers le Seigneur nos regards, c'est accepter la mise en lumière de nos errements, comme les Israélites dans le désert. Regarder vers la croix, c'est accepter de s'en remettre à lui, pour aujourd'hui et pour demain. Il est temps, et c'est consentir à s'ouvrir, jour après jour, à son amour inconditionnel, car le Nouveau Testament nous le dit, cet amour, Dieu nous le donne gratuitement. Cet amour qui caractérise la vie des disciples du Christ, qui sont appelés à le recevoir et à le répandre autour d'eux. Alors, laissons-nous entraîner par le Seigneur sur le chemin de la bénédiction, même s'il n'est pas toujours facile, car lui sait où il veut nous mener. Oui, que le Seigneur nous bénisse et nous renouvelle. Amen.